Chapitre 3. Ce que nous avions fait. C'est quand les gens commencent à dire la vérité qu'ils ont souvent le plus besoin d'un avocat. P.D. James. 1. Le gymnase était un parallélépipède en béton construit sur un plateau encaissé en bordure de la Pinède. On y accédait par une rampe plongeante bordée de gros rochers calcaires, blancs comme de la nacre, qui réverbéraient la lumière aveuglante du soleil. En arrivant sur le parking, j'aperçus une benne et un bulldozer garés à côté d'une construction modulaire, et mon inquiétude monta d'un cran. L'Algeco abritait toute une batterie d'outillage. Des marteaux-piqueurs, des brise-béton, des cisailles à métaux, des grappins et des pelles de démolition. La directrice n'avait pas menti. Le vieux gymnase vivait ses dernières heures. Le début des travaux était imminent et avec lui, le début de notre chute. Je contournai la salle de sport à la recherche de Maxime. Si je n'avais plus été en contact avec lui, j'avais suivi de loin son parcours avec une véritable fascination et une certaine fierté. L'affaire Vinca Rockwell avait eu sur la trajectoire de mon ami un effet opposé à celui qu'elle avait exercé sur la mienne. Si ces événements m'avaient anéanti et coupé dans mon élan, ils avaient fait sauter plusieurs verrous chez Maxime, le libérant d'une gangue et lui rendant la liberté d'écrire sa propre histoire. Après ce que nous avions fait, je n'avais plus jamais été le même. J'avais vécu dans la terreur et un désordre mental qui m'avait conduit à rater lamentablement mon année de maths sup. Dès l'été 1993, j'avais quitté la Côte d'Azur pour Paris, et au désespoir de mes parents, je m'étais réorienté dans une école de commerce de deuxième zone. Une fois dans la capitale, j'avais végété pendant 4 ans. Je séchais un cours sur 2 et passais le reste de mes journées dans les cafés de Saint-Michel, chez Gilbert Jeune, à la Fnac Montparnasse et au 14 juillet Odéon. En 4e année, l'école obligeait ses élèves à partir 6 mois à l'étranger. Alors que la plupart de mes condisciples avaient trouvé un stage dans une grande entreprise, j'avais dû me contenter d'un poste plus modeste. J'avais été embauché comme assistant d'Evelyn Warren, une intellectuelle féministe new-yorkaise. À l'époque, Warren, pourtant âgée de 80 ans, continuait à donner des conférences dans des universités aux quatre coins des États-Unis. C'était une personnalité brillante, mais aussi une femme tyrannique et capricieuse, qui se fâchait avec tout le monde. Dieu sait pourquoi, elle m'aimait bien. Peut-être parce que j'étais assez insensible à ses sautes d'humeur et qu'elle ne parvenait pas à m'impressionner. Sans se considérer comme une grand-mère de substitution, elle me demanda de rester à son service après mes études et m'aida à obtenir une carte verte. C'est ainsi que je demeurai son assistant jusqu'à sa mort, logé dans une aile de son appartement de l'Upper East Side. Pendant mon temps libre, et j'en avais beaucoup, je faisais la seule chose qui m'apaisait vraiment, écrire des histoires. À défaut de maîtriser ma vie, je m'inventais des mondes lumineux, délestés des angoisses qui me rongeaient. Les baguettes magiques existent. Pour moi, elles prenaient la forme d'un bic cristal. Pour 1,50 franc, on vous donnait accès à un instrument capable de transfigurer la réalité, de la réparer, voire de la nier. En 2000, je fis paraître mon premier roman, qui, grâce au bouche à oreille, entra dans les classements des meilleures ventes. Depuis, j'avais écrit 10 livres. L'écriture et la promotion occupaient mes journées à plein temps. Mon succès était réel, mais aux yeux de ma famille, écrire de la fiction ne faisait pas partie des professions sérieuses. « Quand je pense qu'on espérait que tu deviendrais ingénieur », m'avait même lâché un jour mon père avec sa délicatesse habituelle. Peu à peu, mes visites en France s'étaient espacées et se limitaient à présent à 1 semaine de promo et de dédicaces. J'avais 1 sœur et 1 frère aîné que je ne voyais presque jamais. Marie avait fait l'école des mines et occupait un poste important à la Direction nationale des statistiques du commerce extérieur. Je ne savais pas exactement quelle réalité recouvrait son boulot, mais je n'imaginais pas quelque chose de très fun. Quant à Jérôme, il était le véritable héros de la famille. Chirurgien pédiatre, il travaillait depuis le tremblement de terre de 2010 en Haïti, où il coordonnait les actions de Médecins sans frontières. 2. Et puis, il y avait Maxime, mon ex-meilleur ami que je n'avais jamais remplacé, mon frère de cœur. Je le connaissais depuis toujours. La famille de son père et celle de ma mère étaient originaires du même village italien, Montaldiccio, dans le Piémont. Avant que mes parents obtiennent un logement de fonction à Saint-Aix, nous avions été voisins à Antibes, chemin de la Suquette. Nos deux maisons bâties côte à côte offraient une vue panoramique sur un bout de Méditerranée. Nos pelouses n'étaient séparées que par un muret de pierre sèche et accueillaient nos matchs de foot et les barbecue parties qu'organisaient nos parents. Au lycée, contrairement à moi, Maxime n'était pas un bon élève. Pas nul non plus, mais un garçon un peu immature, plus intéressé par le sport et les blockbusters que par les subtilités de l'éducation sentimentale et de Manon Lescaut. L'été, il travaillait comme plagiste au Cap d'Antibes, à la batterie du Graillon. Je me souvenais de son allure éclatante. Torse sculpté, cheveux longs de surfeur, caleçon rip curl, Vans sans lacets. Il avait une candeur un peu rêveuse et la blondeur avant l'heure des adolescents de Gus Van Sant. Maxime était le fils unique de Francis Biancardini, un entrepreneur de maçonnerie bien connu dans la région, qui avait bâti un empire local à une époque où les règles sur l'attribution des marchés publics étaient plus souples qu'aujourd'hui. Parce que je le connaissais bien, je savais que Francis était un être complexe, secret et ambigu. Mais aux yeux du monde, il apparaissait comme un rustre, avec ses grosses mains de maçon, ses kilos en trop, sa dégaine de plouc et ses propos de bistrot qui reprenaient souvent la rhétorique du FN. Il ne lui en fallait pas beaucoup pour qu'il se lâche encore davantage. Les responsables de la décadence du pays s'alignaient dans son viseur. Les Arabes, les socialos, les gonzesses, les tarlouses. Le mal dominant version gros beauf qui n'avait pas compris que son monde avait déjà sombré. Pendant longtemps, écrasé par un père qui lui faisait honte autant qu'il l'admirait, Maxime avait peiné à trouver sa place. Ce n'est qu'après le drame qu'il avait réussi à s'émanciper de son emprise. La métamorphose avait pris 20 ans et s'était réalisée par étapes. Autrefois élève médiocre, Maxime s'était mis à bûcher et avait obtenu un diplôme d'ingénieur du bâtiment et des travaux publics. Puis il avait repris l'entreprise de maçonnerie de son père pour mieux la transformer en leader local de construction écologique. Il avait ensuite été à l'initiative de Plateforme 77, le plus grand incubateur de start-up du sud de la France. Parallèlement, Maxime avait assumé son homosexualité. Dès l'été 2013, quelques semaines après l'adoption de la loi sur le mariage pour tous, il s'était uni à la mairie d'Antibes avec son compagnon Olivier Mons, encore un ancien de Saint-Aix, qui dirigeait la médiathèque de la ville. Le couple avait aujourd'hui deux petites filles, nées d'une mère porteuse aux États-Unis. J'avais glané toutes ces informations sur les sites internet de Nice Matin et de Challenge, ainsi que dans un article du magazine Du Monde consacré à la génération Macron. Jusque-là simple conseiller municipal, Maxime avait adhéré à En Marche dès sa création et avait été l'un des premiers à soutenir le futur président de la République dont il avait animé le comité départemental pendant la campagne. Il briguait aujourd'hui le poste de député de la 7e circonscription des Alpes-Maritimes sous la bannière LREM. Traditionnellement ancrée à droite, la population élisait depuis 20 ans au premier tour un républicain modéré et humaniste qui faisait bien son job. Il y avait encore 3 mois, personne n'aurait imaginé que la circonscription pourrait changer de couleur politique. Mais en ce printemps 2017, une énergie nouvelle irriguait le pays. La vague Macron menaçait de tout emporter sur son passage. L'élection se jouerait sans doute au coude à coude, mais Maxime paraissait à présent avoir toutes ses chances face aux députés sortants. 3. Lorsque j'aperçus Maxime, il était devant l'entrée du gymnase, en pleine conversation avec les sœurs Dupré. Je détaillai de loin sa silhouette drapée dans un pantalon de toile, une chemise blanche et une veste en lin. Son visage était bronzé, légèrement buriné, son regard clair, ses cheveux toujours décolorés par le soleil. Léopoldine, Miss Serre-Tête, et Jessica, Miss Bimbo, buvait ses paroles comme s'il était en train de leur déclamer le monologue de Rodrigue, alors qu'il tentait seulement de les convaincre que la hausse prochaine de la CSG entraînerait une augmentation du pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés.
« Regardez qui voilà !»
lança Jessica en m'apercevant. J'embrassai les jumelles, qui m'expliquèrent qu'elles étaient chargées de l'organisation de la soirée dansante ici même, et donnai une accolade à Maxime. Peut-être mon cerveau me jouait-il des tours, mais il me sembla qu'émanait toujours de lui l'odeur de noix de coco caractéristique de la cire qu'il se mettait à l'époque dans les cheveux. Pendant encore 5 minutes, il nous fallut endurer la conversation des frangines. À un moment, Léopoldine me répéta combien elle adorait mes romans, et en particulier la trilogie du mal.
« Moi aussi, j'aime bien cette histoire, » dis-je, « même si ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Mais je transmettrai tes éloges à mon ami Chatham. »
Pourtant prononcée sur le ton de l'humour, ma remarque mortifia Léopoldine. Il y eut un blanc, puis, prétextant le retard dans l'accrochage des guirlandes lumineuses, elle entraîna sa sœur vers une sorte de remise où étaient entreposées les décorations pour la fête. Enfin, j'étais seul avec Maxime. Libéré du regard des jumelles, son visage se décomposa avant même que je lui demande comment il allait. Je suis effondré. Son inquiétude monta d'un cran lorsque je lui montrai les lunettes et le message trouvé chez Dino en revenant des toilettes. Vengeance. J'ai reçu le même à ma permanence avant-hier, me confia-t-il en se massant les tempes. J'aurais dû te le dire au téléphone. Pardonne-moi, j'ai pensé que ça t'aurait dissuadé de venir.
T'as une idée de qui nous envoie ça ?
Pas la moindre. Mais même si on savait, ça changerait pas grand-chose. Il désigna de la tête le bulldozer et le préfab où étaient rangés les outils. Les travaux vont commencer lundi. Quoi qu'on fasse, on est foutu. Il sortit son téléphone portable pour me montrer des photos de ses filles. Louise, 4 ans, et sa sœur Emma, 2 ans. Malgré les circonstances, je le félicitais. Maxime avait réussi là où j'avais échoué, fonder une famille, tracer un chemin qui ait du sens et être utile à la collectivité.
« Mais je vais tout perdre, tu comprends ?» me lança-t-il, affolé.
« Attends, ne pleurons pas avant d'avoir mal, » dis-je, sans parvenir à le rassurer. J'hésitai un instant, puis ajoutai. « Tu y es retourné ?»«
Non, »
dit-il en secouant la tête.
« Je t'attendais. »
4. Nous pénétrâmes tous les deux dans le gymnase. La salle de sport était aussi grande que dans mon souvenir. Plus de 2000 mètres carrés divisés en deux parties bien distinctes. Une salle omnisport avec un mur d'escalade et un parquet de basket entouré de gradins. En prévision de la soirée à venir, l'horrible boom des anciens dont parlait l'article, on avait poussé et empilé les tatamis, les tapis de gym, les buts et les filets pour installer une piste de danse et une estrade sur laquelle se produirait un orchestre. Des nappes en papier recouvraient les tables de ping-pong. Des guirlandes et des décorations artisanales complétaient le tableau. En progressant dans la salle principale, revêtue d'un sol synthétique, je ne pouvais m'empêcher de penser que ce soir, pendant que le groupe reprendrait les tubes d'In Excess et des Red Hot Chili Peppers, des dizaines de couples allaient danser à proximité d'un cadavre. Maxime m'accompagna jusqu'au mur qui séparait la salle polyvalente du parquet de basket et de ses gradins. Des gouttes de sueur perlaient sur ses tempes et, sous ses bras, deux auréoles sombres attaquaient sa veste en lin. Ses derniers pas furent chancelants, puis il se figea carrément, comme s'il ne pouvait plus avancer, comme si l'ouvrage en béton le repoussait, à la manière du pôle identique d'un aimant. Je posai la main contre le mur en essayant de mettre mes émotions à distance. Ce n'était pas une simple cloison. C'était un mur porteur de presque 1 mètre d'épaisseur, entièrement maçonné, qui traversait toute la largeur du gymnase sur 20 mètres. À nouveau, crépitant dans ma tête, des flashs me déstabilisèrent. Des photos de générations d'ados qui depuis 25 ans étaient venus s'entraîner et transpirer dans cette salle, sans savoir qu'un corps y était emmuré. En tant que conseiller municipal, j'ai pu parler à l'entrepreneur qui va démolir le gymnase, m'annonça Maxime. Concrètement, comment ça va se passer ?
Dès lundi, les pelles mécaniques et les mâchoires des pinces de démolition vont se mettre en branle. Ces mecs sont des pros. Ils ont du personnel et des machines performantes. Il leur faudra moins d'une semaine pour raser l'édifice.
Donc, en théorie, ils peuvent découvrir le corps après-demain.
Ouais !
Répondit-il en chuchotant et en faisant un geste de la main pour m'inciter à parler plus bas.
Y a-t-il une possibilité pour qu'il passe à côté ?
Tu rigoles ?
Absolument aucune,
soupira-t-il.
Il se frotta les paupières. Le corps était enroulé dans une double bâche de chantier. Même après 25 ans, on va retrouver quantité d'ossements. Les travaux seront immédiatement arrêtés et on entamera des fouilles pour recueillir d'autres indices. Combien de temps pour identifier le cadavre avec certitude ? Maxime haussa les épaules. Je suis pas flic, mais entre l'ADN et les histoires de dentition, je dirais une bonne semaine. Le problème, c'est qu'entre-temps, ils auront mis la main sur mon couteau et ta barre de fer. D'autres objets aussi, sans doute. On a tout fait dans la précipitation, putain. Avec les moyens d'investigation modernes, on va retrouver des traces de nos ADN, peut-être également nos empreintes. Et même si elles sont pas figées, on remontera jusqu'à moi à cause de mon nom gravé sur le manche de l'arme.
Un cadeau de ton père, me souvins-je.
Oui, un couteau de l'armée suisse.
Maxime tira nerveusement sur la peau de son cou.
Il faut que je prenne les devants,
se lamenta-t-il.
Dès cet après-midi, je vais annoncer que je renonce à me présenter. Il faut que le mouvement ait le temps d'investir un autre candidat. Je veux pas être le premier scandale de l'ère Macron.
Je tentai de le calmer.
Laisse-toi un peu de temps. Je dis pas qu'on va tout arranger en un week-end, mais il faut essayer de comprendre ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive ? On a tué un mec, bordel ! On a tué un mec et on l'a emmuré dans ce putain de gymnase !